Prisme, l'émission d'architecture qui fait société sur Bâti Radio.
Europa City, Notre-Dame-des-Landes, la Gare du Nord et bientôt d'autres grands projets pourraient être annulés. Pourtant soutenus par les politiques, ils subissent la pression des citoyens et de l'opinion publique. Ces contestations sont souvent menées avec l'aide d'associations de défense de l'environnement. Pourtant, ces projets ne manquent pas d'intérêts architecturaux. Ils promettent de désenclaver un territoire, de dynamiser un tissu économique abandonné ou de densifier une métropole pour éviter l'étalement urbain. Alors, pourquoi ce rapport de force ? Pour en parler, nous avons invité Christine Nedelec, vice-présidente de France Nature Environnement, l'une des associations les plus redoutées et influentes de la contestation. Et nous avons également invité Philippe Subra, géographe, spécialiste en géopolitique, qui a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet et permettra de prendre du recul pour mieux comprendre ce phénomène. Bonjour et bienvenue dans Prisme. Au sommaire de cette émission, nous commencerons par un rappel historique de ce type de contestation avec Marion Emery, chercheuse en architecture. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez réalisé une thèse, vous réalisez en ce moment une thèse sur le sujet, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça.
Quel est le titre de cette thèse ?
L'autoroute urbaine dans Paris, des projets contestés 1959-1976.
Voilà, donc vous êtes très calé sur tout ce qui est historique un peu de cette phénomène de contestation. Ensuite, nous écouterons le témoignage de Vincent Parera, architecte, auteur de l'un des projets d'Europa City. Puis l'autre prisme de David Trottin, La Chronique. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, rendez-vous avec Dominique Boré, président d'honneur de la Maison d'architecture d'Île-de-France, pour les grands événements du mois à ne pas manquer. Bonjour Dominique.
Bonjour Olivier.
Alors, Christine Nedelec, bonjour. Vous êtes bretonne parisienne, vous êtes ingénieure de Centrale Nantes et urbaniste. Vous avez exercé pendant 2 ans comme ingénieure chez Bouygues et vous avez ensuite bifurqué vers le monde associatif. Vous avez d'abord rejoint SOS Paris, une association historique de protection du patrimoine et de l'environnement, née en 1973, qui à l'époque avait pour vocation d'empêcher l'éventration nord-sud de Paris et de stopper les tours, les acs, etc. Vous avez ensuite participé à la création de France Nature Environnement en 2015, qui fédère de nombreuses associations dans toute la France.
Alors, je précise que ce n'est pas France Nature Environnement que j'ai créé. En fait, nous avons créé France Nature Environnement Paris, qui est la section parisienne.
Parisienne, voilà. D'accord. Et vous en êtes vice-présidente, je crois.
Je suis présidente de France Nature Environnement Paris. En fait, c'est un système de poupées russes. Vous avez France Nature Environnement pour le national, et puis des déclinaisons régionales et départementales qui fédèrent les associations selon les territoires. Voilà.
D'accord. Philippe Subra, vous êtes géographe, spécialiste en géopolitique locale et urbaine, directeur de l'Institut français de géopolitique et également membre du comité de rédaction de la revue Hérodote. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la question, comme « Zone à défendre » de Sivens à Notre-Dame-des-Landes, paru en 2016 aux éditions de l'Aube, et « Géopolitique locale, territoire, acteur, conflit », qui est paru chez Armand Collin. Bonjour,
Bonjour.
Vous êtes un peu la personne, vous êtes souvent invité, je pense, sur des plateaux pour parler un peu de ces sujets. Vous êtes un peu le spécialiste.
Oh ben, je suis pas le seul. Hein.
En tout cas, la notion de géopolitique locale et urbaine nous plaît beaucoup. Enfin, dans cette émission, on va voir comment vous allez pouvoir nous éclairer et apporter un peu de hauteur ou bien de recul par rapport à ce phénomène. Alors tout de suite, notre chroniqueuse invitée du jour, qui est une chercheuse en architecture, Marion Emery. Marion Emery, votre travail de recherche porte sur la contestation citoyenne des projets d'infrastructure en France, un phénomène qui est paru dans les années 70. Est-ce que vous pouvez nous replacer cette contestation dans ce contexte ?
Oui, merci. J'aimerais aborder ces contestations urbaines qui regroupent de nombreuses mobilisations aux revendications différentes dans une perspective historique et d'un point de vue particulier, aussi parce que c'est l'objet de mes recherches actuelles. C'est celui des contestations qui se sont déroulées lors de la période des Trente Glorieuses contre les grands projets d'autoroutes urbaines de la seconde moitié du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, projetés pour desservir et décongestionner les villes en les traversant. En effet, dès la fin des années 50, simultanément à la publication des schémas directeurs qui figurent les grands projets d'aménagement infrastructurel, les associations citoyennes s'organisent et le discours des milieux intellectuels s'aiguise, dont l'objectif est d'empêcher leur aboutissement. C'est ainsi qu'au début des années 60 aux États-Unis, puis au milieu des années 70 en Europe, de nombreux projets d'autoroutes urbaines sont abandonnés et ceux qui se concrétisent n'échappent pas aux controverses. Il faut nommer le mouvement américain précurseur des Freeway Revolts, dont la mobilisation et la contestation citoyenne ont eu, par exemple, pour conséquence, l'abandon de 70% du réseau autoroutier proposé en 1955 à San Francisco. Si cette mobilisation s'étend à l'ensemble des États-Unis et même plus tardivement aux grandes villes européennes, elle incarne un véritable modèle de révolte contre ces infrastructures et ces grands projets urbains, symboles de la modernité, qui défigurent les villes. Ce n'est que plus tard, à la fin des années 60, que l'on s'oppose aux autoroutes urbaines en Europe. À Paris, par exemple, le plan autoroutier pour Paris, publié en 67, propose ainsi, s'additionnant aux boulevards périphériques et à la voie express rive droite que nous connaissons, une multitude d'autoroutes, de voies express, de radiales, dont un axe nord-sud de 2x4 voies, passant sur le canal Saint-Martin. Tous ces projets seront vivement contestés, puis abandonnés. C'est important de préciser que Paris n'est pas un phénomène isolé, qu'il existe aussi à cette même période en France d'autres mouvements citoyens contre ces autoroutes qui traversent les villes, comme à Rennes ou Lyon, ou qui ont elles aussi essuyé les contestations contre ces projets infrastructurels qui n'ont finalement jamais vu le jour. Même si les contestations ne sont pas l'unique raison de l'abandon de ces projets-là, la question économique prend évidemment part au débat, il est néanmoins intéressant d'analyser comment la contestation participe de l'abandon de ces grands projets, infrastructurelles notamment puisque c'est l'objet de ma recherche, mais aussi d'autres grands projets urbains. Et je peux mentionner à ce sujet la lutte qui s'est engagée pendant des années autour du projet de la restructuration des Halles à cette même période. Et donc par extension, comment ces mouvements, par les arguments qu'ils déploient, participent à l'évolution de la fabrique de la ville. Dès les années 70, les préoccupations patrimoniales et écologiques naissantes sont d'une part portées par les contestations citoyennes et d'autre part pensées par les discours critiques et théoriques des architectes et urbanistes. C'est bien déjà de ces questions-là dont il s'agit, non au béton dans Paris, qui est une des revendications types relayées par la presse nationale pour incarner la lutte contre ces grands projets. L'analyse et l'étude historique de ces contestations permettent de concevoir les grands projets d'aménagement urbain, ici infrastructure de la mobilité, comme des territoires politiques singuliers. Et cette question, au regard de la contestation actuelle des mouvements citoyens, semble essentielle dans la prise en compte des impératifs écologiques et sociaux des pratiques architecturales et urbaines contemporaines.
Merci Marion pour cette introduction historique sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Alors, j'ai une première question qui s'adresse à Christine Edelec. Depuis combien de temps France Nature Environnement s'attaque à des projets urbains, à peu près ?
Alors, je crois que France Nature Environnement National a été créée en 68, donc c'est à peu près le timing que nous indiquait Marion. Oui, je crois que c'est à ce moment-là que ça s'est organisé, en fait. Et c'est vrai que France Nature Environnement National regroupe plus de 40 000 associations. C'est quand même pas rien.
Donc on peut dire que vous êtes un peu en soutien à toute une nébuleuse d'associations qui est présente sur chacun des fronts.
Exactement, c'est le principe en fait, c'est le principe de fédérer pour être plus fort. Hein.
Alors j'ai retrouvé cette carte que vous pouvez consulter, donc la carte des GPII, hein, donc des grands projets inutiles imposés. c'est une carte, c'est une notion qui avait été à l'époque adoptée au Forum social mondial de Tunis en 2013 et qui est un peu la base de votre contestation.
C'est pas la base, mais c'est un outil pour montrer à quel point les grands projets inutiles et imposés pullulent en fait, et donc c'est une façon démonstrative d'exprimer la situation dans laquelle on se trouve en fait.
Et Philippe Subra, quelles sont les grandes contestations que vous avez pu étudier et que vous avez abordées un peu au long de votre longue carrière ?
Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur des contestations sur les projets d'infrastructure, les lignes à grande vitesse, par exemple, les autoroutes, les aéroports, mais aussi sur ce qui est un phénomène nouveau et intéressant, enfin nouveau, qui a apparu au bout d'un certain temps, qui est intéressant, c'est ce que j'appellerais du NIMBY social, c'est-à-dire le refus par des riverains, soit en zone périurbaine, soit en zone urbaine, d'équipements ou de projets de logement qui impliquent de la mixité sociale. Donc typiquement, en zone rurale ou périurbaine, ça va être des aires d'accueil pour des gens du voyage. En ville, ça va être des équipements, des centres d'accueil pour SDF, pour toxicomanes, pour exilés, ou des programmes de logements sociaux. Et donc, il y a tout le champ de l'application du célèbre article 55 de la loi SRU sur les quotas de logements sociaux dans les villes, qui se heurte à une très forte résistance, en fait, au départ de la population, avec pression sur les élus. Et en fait, ce qu'il y a derrière cette résistance, c'est effectivement le refus de la mixité sociale. Mmh. Donc ça, c'est un autre champ de contestation qui n'est pas du tout celui sur lequel travaille FNE, par exemple.
Mais on a pas l'impression que parfois, certains projets sont liés peut-être sous un prétexte d'environnement. On attaque des projets qui peut-être avoir une vocation NIMBY, un not in my backyard, pour rappeler le terme. En fait, pas chez moi.
Je pense que contrairement à comment dire au cliché qu'on nous martèle, cette question de NIMBY, les riverains sont aux premières loges évidemment lors d'un projet puisque ça va se dérouler devant leurs fenêtres et ce sont les premiers à réagir et à dire. Mais ce que je remarque dans les projets, c'est que les gens sont prêts à accepter des projets modérés, mais quand s'ils deviennent abusifs, alors ils se mobilisent. Et nous, en tout cas à Paris, on remarque cette situation sur tous les projets auxquels on est confronté, en fait. Donc, je défends le bon sens des riverains, finalement, qui sont quand même relativement conscients qu'il faut en effet créer un peu plus de logements, etc., mais dans une certaine mesure. Et la démesure n'est pas supportable, surtout dans une ville qui est extrêmement dense comme à Paris.
Mmh. Alors, parce que certains j'apporterais une lecture un petit peu différente. D'abord parce que je parle pas du même point de vue qu'une militante associative et environnementaliste, mais du point de vue d'un chercheur. Et moi, ce qui me frappe, c'est que il y a cette opposition classique des sociologues anglo-saxons entre NIMBYistes qui seraient contre un projet parce qu'il est là, près de chez eux, et écologistes qui seraient contre un projet presque indépendamment de sa localisation dans certains cas. Moi, ce qui me frappe, c'est la complémentarité, en fait. Et le fait que, et là je vous rejoins, dans énormément de conflits, on retrouve les deux. Et les deux ensemble, et les deux se complétant. C'est-à-dire la grande force des militants écologistes, c'est qu'ils ont une forme de légitimité. On ne peut pas les taxer. Ils taxent de plein de choses, mais on ne peut pas les taxer d'égoïsme. Alors que c'est souvent le cas des NIMBYistes, on parle d'égoïsme territorial, et donc les NIMBYistes, les riverains, ont besoin des arguments environnementaux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sincères quand ils les utilisent. Et on peut à la fois défendre son intérêt, y compris son intérêt patrimonial, la valeur de sa maison, et défendre la planète. C'est pas du tout incompatible. Je veux dire, les gens sont assez compliqués, complexes pour que ça soit possible. Mais ils en ont besoin. Et en plus, les écologistes apportent un savoir-faire, des réseaux qui sont très utiles. Inversement, les riverains apportent le nombre, apportent la pression électorale, apportent le fait qu'ils sont sur place et qu'ils sont très motivés parce que c'est leur cadre de vie, c'est leur patrimoine qui est en jeu.
Alors justement, on a souvent quand même tendance à voir que bon, si on parle des grandes métropoles où on veut éviter l'étalement urbain, on est obligé d'après de densifier. Et souvent, c'est un peu ces sujets-là qui sont porteurs de conflits. C'est-à-dire des projets qui proposent de densifier pour éviter l'étalement urbain, mais du coup, on construit un peu les uns sur les autres et ça génère du conflit. Donc, est-ce que c'est pas antinomique avec une préoccupation environnementale, Christine Edelec?
La question de la densité, je crois qu'elle est majeure, en tout cas à Paris et en Ile-de-France. Je crois que ces questions d'étalement urbain et de densification des villes sont les mêmes volets, enfin d'une même façon de faire avec le territoire et l'urbanisme, en fait, et qui nous conduit dans le mur actuellement. Alors, en tout cas, pour Paris, on a atteint, je crois, le seuil de densité raisonnable, déraisonnable.
Oui, entre 20 et 25 000 habitants km².
Non, là, je pense qu'on a dû dépasser parce qu'on a quand même produit, là, depuis 10 ans, 3 millions de mètres carrés de planchers de béton nouveaux dans Paris. Alors, c'est pas forcément une densification des gens qui y habitent parce qu'il y a les gens qui viennent y travailler, mais enfin, au total, ça fait une densité subie ou sentie ou ressentie qui est peut-être suffisante. Et en tout cas, on est quand même à Paris la cinquième ville la plus dense du monde, après des villes du tiers-monde. Et donc, on se demande où est la limite et où est-ce qu'on bascule aussi. Parce que là, actuellement, il y a quand même un gros sujet de saccage Paris, on va dire. Enfin, un problème d'entretien de voirie qui conduit parfois à des accidents très graves du genre rue de Trévise. Enfin, on est dans une situation un peu critique. Donc, il faut trouver le modèle de développement et de fonctionnement qui soit satisfaisant pour tout le monde. Et je ne parle pas des questions de santé quand même environnementale, et qui est un point aussi très important et qui va se décupler, je pense.
Dans les prochaines années, oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, Philippe Subra, vous en parlez un peu entre les lignes, l'effet, vous savez, ce fameux village de Saillant dans la Drôme, en 2014, je rappelle vite fait l'effet, c'était tout un mouvement qui s'était opposé à la construction d'un supermarché casino. Et ensuite, ils ont créé une liste citoyenne, ils ont proposé ça aux élections municipales, ils ont gagné, et aujourd'hui, ça a été comme une sorte de laboratoire, tout le monde s'est dit, ça y est, enfin, le peuple peut prendre le pouvoir. Ça s'est décliné ensuite à Murviel et Montpellier, qui avaient été, à l'époque, secoués par un projet de construction de logements sur 25 hectares de terres agricoles, et ils ont fini aussi par créer un collectif et gagner la ville. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce phénomène mélange de politique, de défense de l'environnement, de not in my backyard aussi un petit peu ?
Alors avant de répondre à votre question, je voudrais poursuivre dans le prolongement de ce qu'a dit Christine Nedelec. En fait, la solution à l'étalement urbain et à la trop grande densification de Paris qui n'a pas de sens, comme vous le dites, est la même. La réponse, c'est la même. C'est d'une part la densification autour de Paris d'espaces qui sont beaucoup moins densifiés. Quand on passe de Paris à Aubervilliers, hein, on passe de 22 000 habitants kilomètre carré à 4 ou 5 000. Donc il y a de la place.
Il y a de la place sur la première couronne, on va dire.
Oui, il y a de la place sur la première couronne, il y a de la place dans la deuxième couronne. Donc c'est pas la peine de consommer des terres agricoles, et c'est pas la peine de surdensifier Paris, qui est déjà plein à craquer. Bon, ça c'est un premier point. Maintenant, pour répondre à votre question, et peut-être que ça anticipe des choses que je pourrais dire par rapport à Europa City. Il y a une dimension qui apparaît ces dernières années dans certaines contestations, qui est une dimension de refus d'un modèle de société. Hier, Amazon a renoncé dans le Gard à implanter un centre de tri face à une opposition et de multiples recours en justice. Et une partie des critiques, alors on en discutera peut-être tout à l'heure, mais qui sont adressées à Europa City, au-delà de la consommation de terres agricoles dans le triangle de Gonesse, c'était aussi que c'est un projet extrêmement emblématique d'un modèle d'hyperconsommation qui est refusé. Donc ça, je pense que c'est une musique qu'on commence à entendre dans la contestation et qui va prendre de plus en plus de place. Alors après, il y a une dimension de démocratie participative, c'est-à-dire il y a une volonté des habitants d'avoir une influence sur ce que devient leur territoire. C'est en ça que c'est très géopolitique, de mon point de vue. Je pense que ça va croître, mais ça pose des problèmes. Parce que qui est légitime politiquement pour décider de ce qu'est un territoire? Par exemple, est-ce que les habitants de Neuilly sont légitimes pour refuser des logements sociaux? Quelle est la bonne échelle?
Alors, on essaiera d'aborder cette question en troisième partie de cette émission. Moi, je vous propose d'abord d'écouter, puisque vous parlez d'Europa City, ça tombe bien, d'écouter Vincent Parera, l'un des architectes qui a participé au projet dans le triangle des Gonesse, donc Europa City. Pour mémoire, Europa City, c'est un ancien projet de méga complexe regroupant des loisirs, des équipements culturels, des commerces, des hôtels, restaurants, ainsi qu'un parc urbain, une ferme urbaine. Donc il aurait pu voir le jour en 2027 sur le territoire des triangles des Gonesse, près de l'aéroport Charles de Gaulle, mais qui a été annulé en 2019 par les présidents de la République, Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter son interview.
Aujourd'hui, la bataille, elle est dans réduire l'impact bâti sur ces territoires. Et cette bataille, elle est de toute façon perdue avec ou sans Europa City aujourd'hui. C'est le constat malheureux qu'on peut faire.
Parce qu'il faut juste rappeler que Europa City, c'était un des éléments de cet ensemble à bâtir. Europa City n'était pas le projet qui allait perturber tout l'écosystème. De toute façon, on va quand même bâtir plus de 600 hectares. Agoralim, agroalimentaire, c'est une plateforme de distribution alimentaire. L'extension du marché international de Rungis, c'est à l'opposé. Et donc on se dit, avec cette mise en place, on va protéger les terres, et puis en plus on va les utiliser, ça va mettre en place les circuits courts. Il faut des énormes plateformes logistiques. Et une plateforme logistique, on a rarement vu que c'était, tu vois, hyper écolo, ou dans le sens où bâtir sans vie à l'intérieur que pour du stockage. Enfin, c'est des kilomètres et des kilomètres de façades, c'est des kilomètres et des kilomètres d'espace public sans vie. Qu'est-ce qui a amené l'abandon d'Europa City ? La ligne 17, la ligne de métro du Grand Paris Express qui devait arriver jusqu'au Ménil-Amelot qui était le terminus. S'il n'y a plus d'urbanisation, il n'y a pas vraiment de ligne de métro. Le grand nombre d'élus et d'habitants étaient pour avoir une urbanisation de cette ZAC tout en ayant un regard vertueux sur la préservation des espaces. La sanctuarisation des terrains agricoles, a priori, elle est identifiée. Il y a autour de 400 hectares. Mais il y a, de toute façon, même à l'époque du projet d'Europa City, cette sanctuarisation. La résultante de tout ça, d'avoir battu le fer sur Europa City, c'est qu'aujourd'hui, on fait exactement la même chose en termes de construction à bâtir. Et ça ne veut pas dire que, parce que c'est sur la table depuis des décennies, qu'on ne doit pas remettre en cause les choses. Les remettre en cause, c'est peut-être pas les effacer, c'est les amender, les améliorer. Mais des fois, il y a des grandes difficultés. Ce que je sais, c'est que si ce combat il arrive à terme et qu'ils ont trouvé cette situation, il faut en parallèle trouver des solutions pour ceux qui vivent là. L'échange et la démocratie, elle manque encore de suffisamment de structures pour qu'on arrive, j'espère un jour, à un alliage intelligent pour que les uns et les autres puissent y retrouver. C'est un peu idéaliste, mais aujourd'hui, la preuve, on n'y arrive pas sur des sujets assez vifs. Parce que la seule image que l'on voit, c'est le côté très libéraliste du sujet, en fait. Ah, ces logements seront que pour des gens très riches. Ah, ce commerce, ce sera que pour des gens qui vont consommer et donc perdre une intelligence culturelle. C'est-à-dire le commerce, c'est pas de la culture. Et donc tout ça fait que ça met en exergue des postures. Et de se battre pour la terre, c'est sûrement plus noble que de se battre pour un centre commercial qui offre des emplois.
Christine Nedelec, vous qui avez un peu combattu ce projet, comment vous interprétez un peu ce qu'ils disent ? Ils abordent plein de sujets, hein, notamment le dernier sujet qu'ils abordent, c'est le sujet de la guerre de posture. C'est vrai que c'est plus vertueux de se battre pour des terres fertiles que de se battre pour du commerce et il dit apporter de l'activité économique, des emplois. Est-ce que vous êtes, vous, dans cette guerre de posture aussi ?
Disons qu'on a étudié un contre-projet, en fait, a été étudié par les associations et qui proposait beaucoup plus d'emplois que les emplois dans les commerces de Europa City, feu Europa City. Donc, ces questions, on nous présente toujours les projets de façon merveilleuse, promesses d'emplois, etc. Sauf qu'en fait, c'est du siphonnage d'emplois. On déplace des emplois. C'est le grand jeu des chaises musicales, en fait, des centres commerciaux de France et de Navarre et à l'international aussi. On se dit on va créer un nouveau projet, un nouveau centre commercial. Il vide complètement les vieux centres commerciaux ou les vieux centres-villes et puis on fait ce jeu éternellement. Donc il va peut-être falloir revenir à une raison puisque on n'a qu'une planète, on a un peu de soin à lui apporter si on veut qu'elle dure un petit peu et qu'en tout cas nous y survivre. Voilà, c'est ça, ce genre de situation. Alors on peut appeler ça une posture, c'est vrai, mais c'est peut-être oui une question philosophique, éthique, j'en sais rien, mais on peut quand même se poser des questions sur l'intelligence de ces modèles à court terme qui considèrent qu'on peut poser du béton ici, puis là encore, et faire tourner les manettes et la machine.
Philippe Subra, vous avez aussi bien étudié ce sujet-là, vous avez aussi bien étudié l'extension du Grand Paris, enfin le Grand Paris d'une manière générale. Comment vous réagissez un peu à ce témoignage ?
Alors d'abord, je pense pas que c'est la ligne 17 qui a entraîné l'abandon d'Europa City. Ce qui a entraîné l'abandon d'Europa City, c'est le fait que, à cause du conflit, donc à cause de l'action des opposants, ce projet est devenu emblématique et que, à un moment donné, au niveau national, le président de la République, après des succès des écologistes au municipal et au régional, a pensé que abandonner un projet emblématique de ce type, après avoir abandonné Notre-Dame-des-Landes et quelques autres, c'était envoyer un signal politique à cet électorat écologiste. C'est comme à Notre-Dame-les-Landes, la prise en compte d'un rapport de force et une analyse du gain et du risque à poursuivre ou abandonner le projet.
Ce qu'il dit, lui, c'est que le projet, si le projet d'Europa City était maintenu, la ligne 17, elle pourrait être maintenue. C'est aussi le projet qui fait survivre la ligne.
Oui, et c'est pas plutôt, l'inverse. Oui, c'est ça. Alors, avec ça, je suis d'accord. La ligne 17, elle prend un coup dans l'aile, en tout cas, son prolongement. À partir du moment où il n'y a pas Europa City, les deux projets étaient vraiment liés. Alors après, sur l'impact économique, effectivement, il y a toujours une certaine différence entre les emplois promis et les emplois réels. Et il y a le fait que il y a une part de transfert d'emplois. D'ailleurs, de manière très significative, les élus locaux était partagé notamment sur une base géographique. C'est-à-dire les élus locaux des communes qui avaient un centre-ville commerçant ou bien déjà un centre commercial étaient hostiles au projet au nom de l'emploi, alors que notamment en Seine-Saint-Denis, et alors que les élus du Val d'Oise qui eux n'en avaient pas, ils étaient favorables au nom de l'emploi. Et en mettant en avant, de manière complètement compréhensible et justifiée, le taux de chômage extrêmement important dans l'est du Val d'Oise, qui du coup va rester aussi important.
Voilà, c'était une manière de certains promoteurs du projet se disaient, c'est aussi un déplacement de l'activité sur un territoire qui a été complètement abandonné autour de l'aéroport.
Voilà. Alors la question qui se pose après, c'est quel prix environnemental on est prêt à payer pour de l'emploi.
Alors lui, ce qu'il dit dans son témoignage aussi, c'est qu'il dit finalement le nouveau projet, il va pas être beaucoup plus vertueux en termes d'environnement.
Je pense qu'il a raison là-dessus. Donc c'est une victoire un peu en trompe-l'œil. Voilà. Ce qui explique cette victoire, c'est aussi la nature du projet. Et c'est à mon avis des erreurs de communication dès le départ des promoteurs du projet. Il y a notamment la fameuse composante du projet qui était une piste de ski artificielle.
Qui a été vite abandonnée, je crois que c'était...
Elle a été vite abandonnée, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on l'a reproché au projet jusqu'à la fin. Ouais. C'est-à-dire, une fois qu'elle a été annoncée, elle a joué contre... Et alors que je pense que les promoteurs du projet s'imaginaient que c'était une idée qui allait rendre le projet séduisant. Et ça a été tout le contraire. Ça a permis, ça plus les boutiques de luxe, de qualifier le projet de Dubaï sur scène et de le rendre emblématique d'un type de consommation mondialisée, parce qu'une partie des clients, ça aurait été des touristes chinois revenant de Paris vers Charles de Gaulle. Voilà. Et donc le projet, il est devenu tellement exemplaire de ce qu'il ne fallait pas faire qu'il est devenu très tentant pour le président de la République de l'abandonner.
Et du coup, est-ce que quelque part, c'est pas une guerre communication entre les habitants, entre un mouvement entre guillemets associatif, voire politique, et des promoteurs, une façon de voir le monde?
Alors, je ne sais pas si c'est une guerre de communication. Moi, je crois que l'approche des habitants, c'est plutôt une approche sensible et de qualité. Et effectivement, les approches politiques ou des promoteurs, ce sont des approches de dossier. Donc, ils chintent complètement la situation réelle. Ils posent leurs petits pâtés ou leurs gros monstres ici ou là, en oubliant qu'il y a des gens qui ont des vies à laquelle ils peuvent tenir. Et cette approche sensible, elle manque partout et tout le temps. On a toujours les mêmes clichés qui reviennent. Je vous dis, l'attractivité économique, ou bien on est taxé de ringard, alors que il me semble parfois qu'on est plutôt à la pointe du monde qui se dessine en fait, ou en tout cas acteur du nouveau monde.
Alors, ce qui était avancé aussi comme argument par France Nature Environnement, c'était de défendre ces terres agricoles pour pouvoir préserver la ceinture nourricière de Paris. Est-ce que vous pensez que ce territoire peut contribuer à nourrir Paris?
Mais c'est difficile de nourrir Paris parce qu'il y a beaucoup de monde.
Oui,
donc mais bien sûr, oui, il faut absolument maintenir des terres qui sont riches et enfin en termes de biodiversité, etc. On est quand même, il y a quelque chose qui passe un peu sous silence et qui est un peu éclipsé par la crise climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité, l'effondrement des espèces. Et je crois que là on va commencer à en prendre conscience, mais il faut vraiment protéger une terre qui est vivante. On a beaucoup de sols morts un peu partout, mais les terres vivantes, il faut absolument les protéger partout où on peut. Donc voilà, c'est vrai qu'on a peut-être eu cette lutte qui paraît saugrenue, peut-être, mais il me semble que la Terre, c'est notre matière aussi.
Ceci près qu'il n'y a pas d'habitants Europa City et que la qualité des terres fertiles, mais exploité en agriculture intensive depuis très longtemps et peut-être questionné. Et donc moi je pense à l'inverse de ce que vous dites que la dimension communication est absolument essentielle. C'est-à-dire ces conflits se gagnent sur le terrain de l'opinion publique. Et à part et quelquefois avec des arguments qui ne sont pas justifiés scientifiquement de part et d'autre. Et ce qui compte c'est la capacité des deux camps à faire passer leur représentation du projet, du territoire, du problème dans l'opinion publique.
Parce que ça vient souvent se cristalliser sur l'architecture. D'ailleurs, David Trottin en parlera tout à l'heure. Mais c'est ça qui est un peu compliqué. C'est que finalement, on attaque l'architecture, on parle d'architecture sur des projets qui ne sont que des projets... Enfin, c'est des sujets surtout d'abord géopolitiques avant d'être des projets d'architecture, des problèmes d'architecture.
Je sais pas si moi je suis pas persuadé que je sais qu'il y a plus beaucoup d'architectes autour de la table donc ça va pas être très populaire ce que je dis mais je suis pas sûr que l'architecture soit le problème. Le problème c'est le modèle de société, le problème c'est la densité de l'espace, le problème c'est le cadre de vie. Évidemment l'architecture y participe mais ce que des architectes trouveront un très beau projet architectural, novateur, élégant, etc., ça n'empêchera pas des oppositions de se manifester. Donc, on critique pas un projet parce qu'il est moche, ou qu'on le trouve moche, ou parce qu'il est trop classique, ou parce qu'il est trop innovant. On le critique par les effets qu'il va avoir en tant qu'acte de bâtir.
Christine Nedelec, vous avez d'autres... revendication, à part vous remettez aussi en question une lutte contre la mondialisation, contre une forme de capitalisme ou de néolibéralisme, voire même une forme de corruption de certains métiers. Qu'est-ce qui est derrière aussi ce discours de l'environnement?
Le désir de rendre un monde vivable et agréable en fait et ça se joue sur différents plans qui peuvent être effectivement les questions environnementales puisque c'est nécessaire à notre santé mais philosophique, politique et en effet le capitalisme prédateur pose enfin je veux dire la prédation et notre façon de détruire le monde dans lequel on vit n'est pas satisfaisante. Donc on essaye d'inventer autre chose et de promouvoir autre chose. Et c'est vrai que nous, on a remarqué que ces grands projets sont quand même liés à un mode de fonctionnement politique qui n'est pas toujours très sain. Et là, on le voit notamment avec l'histoire de la Tour Triangle. Donc là, nous, on vient de faire un communiqué de presse et en déposant une plainte contre la maire de Paris, mais parce que ce projet, c'est un projet qui s'est décidé entre deux personnes, le maire de Paris et Unibail, et on se construit une tour. Voilà, qui ne répond à aucun besoin. Il y a déjà plein de bureaux vides à Paris, 1 500 000 et mètres carrés. Les habitants, évidemment, sont pas contents. Et le problème, c'est que c'est entaché de différentes irrégularités, des petits cadeaux à Unibail en passant sur la concession du parc des expositions. Et ça se reproduit dans différentes situations. Avec nous, il y a aussi les sociétés d'économie mixte qui ont besoin, qui sont les aménageurs des collectivités qui ont besoin de nourrir leur monde de services techniques, etc. Enfin, bon, donc, il y a un processus infernal qui fait qu'on est dans une fuite en avant où il faut toujours plus de projets, toujours de plus grands projets. Là, je vois par exemple, je pourrais vous donner l'exemple de la gare d'Austerlitz. La SNCF avait besoin de faire des rénovations gare d'Austerlitz pour à peu près 100 millions d'euros sur la verrière et puis des aménagements de quais. Mais c'est une gare qui n'est pas tellement fréquentée. Ils nous ont sorti des fréquentations complètement délirantes 2030 à 2030 ou 2050, enfin des chiffres que personne ne sait confirmer. Et donc pour se payer ces 100 millions, on en arrive à un projet à 1 milliard. Sur la gare d'Austerlitz, entre la gare d'Austerlitz et la Salpêtrière, et on construit un bâtiment de 300 mètres de long à 1 milliard. Donc il y a quand même un petit problème. Et ça, c'est effectivement la CEMAPA qui est l'aménageur, enfin, qui a aussi un fonds de ZAC à payer, à financer, etc. Mais bon, ça, c'est au détriment de tout le monde et de tous, et peut-être même au détriment des emplois. Enfin, je suis pas certaine de la vertu. Je suis même plutôt sûre que on sait que c'est un modèle qu'il faut pas continuer à produire, et on n'arrive pas à l'arrêter.
Vous dénoncez une forme de d'accord un peu entre élus et aménageurs, entre élus et politiques.
Je vais prendre un petit verre d'eau. En fait, oui, il y a tout un système en fait qui existe depuis très longtemps. Les histoires d'assainissement des marchés publics. Enfin, on sait que les politiques venaient chercher leurs valises de billets chez les constructeurs. Non, mais c'est vrai. Tout le monde le sait. On a essayé d'assainir les choses. Je suis pas du tout certaine qu'on ait réussi à assainir tant que ça le système. Et on le voit en ce moment là, ça nous saute à la figure de tous les côtés. Il faut financer les campagnes électorales, etc. Enfin bon, il faut qu'on y arrive.
On va peut-être écouter la chronique de David Trottin, qui s'appelle « L'autre prisme ».
Donc effectivement, quand on commence à se poser la question sur la contestation, mais aussi son autre corollaire, ce qui devrait être normal, la concertation, on est dans un sujet qui pique par tous les bouts. Hein. Si le but de notre émission, c'est d'être l'endroit où l'architecture fait société, et là, je pense qu'aujourd'hui, on y est pleinement. Alors, la concertation, c'est un vrai débat démocratique ou c'est un piège à con démagogique? La contestation, c'est citoyen ou politique? C'est défendre le bien commun ou suivre quelques-uns?
Alors du coup, la réalité, c'est est-ce que c'est pas un peu entre les deux à chaque fois?
Bah, ça serait humain en fait que ce soit comme ça. Lorsqu'on interroge en tout cas les architectes sur leurs expériences de concertation et de contestation, il y a deux niveaux de discussion. La parole publique, riche en lieux communs, gratifiant et généreux sur la démocratie, l'engagement des citoyens, et puis la parole privée qui est plus riche en frustration. C'est un sentiment en tout cas global de gâchis, de temps, d'argent privé, mais aussi beaucoup d'argent public et d'énergie. La certitude, c'est qu'il n'est jamais satisfaisant d'être mis sur la sellette dans un débat où l'on incarne le mal, ou tout du moins on illustre le problème. L'enjeu des débats autour d'un projet passant souvent du « comment on peut le faire » à « pourquoi devrait-on le faire ?». La question du « pourquoi un projet » est légitime, mais ne doit pas se poser avant la venue des architectes. Privés ou publics, les décisions politiques et économiques qui déterminent le choix d'un programme, son implantation, son financement, ses modalités de fonctionnement, toutes ces choses-là, elles ont été... Elles sont là, enfin, on se les pose quand on va faire, par exemple, une gare, une tour, un nouveau quartier. C'est à ce moment qu'il serait plus avantageux pour chacun de se questionner. La nécessité et l'intérêt d'un programme, d'associer les différents acteurs pour avoir une concertation démocratique sur les enjeux urbains à venir. Quand la question est bien posée, c'est ce que vous disiez, monsieur, le projet est normalement, naturellement, plus juste.
Mais alors, pourtant, ça existe.
En tout cas, pour les projets que les grandes collectivités lancent, comme la ZAC Brunzo, la Tour Triangle ou le Triangle de Gonesse, les débats, les choix, les arbitrages et des instances consultatives à ce champ public ont forcément existé. Mais la participation des citoyens se limite souvent à l'expression d'un savoir d'usage, les élus gardant le monopole du choix dans l'intérêt général. Plus l'échelle du projet urbain est grande, plus les enjeux politiques et économiques sont importants. Les savoirs experts dominent et les partenariats publics-privés complexifient les marges de manœuvre des élus et des citoyens. On arrive alors à des choix validés par les politiques, mais pas acceptés par les citoyens. Ils font donc souvent attendre que le projet soit incarné par une architecture pour que le débat s'en empare et s'électrise. Plus le projet est alors ambitieux, plus l'enjeu de la lutte devient important. Le porteur du projet, la collectivité, ses opposants, ses partisans et ses concepteurs se retrouvent alors dans la situation d'un duel mexicain.
Alors c'est quoi un duel mexicain ?
Duel mexicain, c'est une situation de cinéma, à l'origine, inventée par Sergio Leone et popularisée par Quentin Tarantino, particulièrement dans un film dont il n'est pas le réalisateur mais le scénariste, True Romance, que je vous encourage vivement à voir. C'est le moment du film où l'ensemble des protagonistes qui sont irréconciliables se retrouvent dans une pièce. Tous sont armés pour en découdre. Les uns ont la puissance de feu d'un croiseur, les autres des flingues de concours. Et c'est parti pour un duel, mais pas à deux, comme le nom l'indique, mais à trois, quatre, cinq. C'est une situation où tout le monde veut flinguer tout le monde. Chacun prend vite conscience qu'il n'y a pas vraiment de chance de s'en sortir vivant. Alors c'est parti, il n'y a plus grand-chose à sauver. Ça donne souvent de très belles scènes, très spectaculaires, avec du sang qui gicle et des chutes au ralenti. Parfois, si dans un échange de regards, deux protagonistes s'entendent pour tirer sur un troisième, c'est pour finir après par s'entretuer. Cette impasse n'est pas une issue. Sur ramener tout dans notre monde plus policé, cela donne de belles joutes de presse, des procédures juridiques à rebondissement, dont ni la démocratie ni l'architecture à la fin ne sortent gagnantes. Je vais conclure par une note un peu plus optimiste pour une autre manière d'envisager la lutte, pour moi, que je trouve intéressante, incarnée par la ZAD, où l'engagement des zadistes fait du combat d'un nouveau territoire, un nouveau territoire social et créatif, qui illustre parfaitement une belle phrase sur la lutte, pour moi, qui a été dite par Stéphane Hessel, qui est « Résister, c'est créer, et créer, c'est résister ». Voilà.
Merci David. Effectivement, Christine Edelec, est-ce que vous vous reconnaissez un peu dans ce combat de duel mexicain?
J'adore. Mais non, pas du tout. En fait. Enfin, non, pas du tout. Un petit peu, malheureusement. Mais en fait, comme on a les tripes qui sont prises dans l'histoire, en fait, c'est un peu plus douloureux que cinématographique et amusant. Et puis, c'est pas pour s'amuser qu'on essaye de trouver des fonds pour payer des procédures et arrêter des projets qui nous semblent contraires à l'intérêt général et à l'intérêt futur des générations, en fait. Parce qu'en fait, on a quand même... on essaie, nous, de se positionner sur le long terme. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait que la façon qu'on a d'organiser nos projets et de les décider, en tout cas, manque d'intelligence collective. Et du coup, on se retrouve avec des projets au rabais, il me semble, et qui ne correspondent pas du tout aux besoins réels, présents et futurs des gens. Et ça c'est quand même un petit peu dommage de louper le coche.
Justement, Philippe Subra, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de radicalisation, un peu, de ce rapport de force, et qui empêche tout dialogue ?
D'une partie, de la part d'une partie du camp de la contestation, sans doute. Mais moi, je voudrais dire que le conflit, c'est pas mal. Le conflit, c'est la société qui bouge, qui évolue, qui se règle autrement, avec d'autres équilibres, d'autres rapports de force. Et le conflit fait partie de la vie. Il y a des conflits partout.
Est-ce que ça serait un peu un rapport de dialogue social ? Ça serait le dialogue
environnemental ? Par exemple, il y a des conflits sociaux. Personne ne dit aux syndicats et aux salariés qu'ils n'ont plus le droit de faire grève pour défendre leurs intérêts. Donc, je pense que les riverains ou les militants écologistes qui défendent une conception de l'avenir ont parfaitement le droit de la défendre. Après, la question, c'est comment on sort le mieux possible des conflits, c'est-à-dire que on évite que soit ça aboutisse à une politique d'aménagement débridée parce que les aménageurs fous l'emporteraient, soit ça débouche sur un blocage généralisé. Et de ce point de vue, la concertation, moi je pense que elle est pas parfaite. Il y a des concertations biaisées, il y a des concertations ratées, mais c'est un grand progrès déjà au niveau de l'information des citoyens, qui est considérablement amélioré. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà participé à des enquêtes publiques et essayé de mettre le nez dans des dossiers d'enquête publique. La plupart des gens, moi le premier, on n'y comprend rien et donc ça ne sert à rien. Là, on a une information qui est lisible, compréhensible, avec beaucoup d'infographies. Et puis, il y a un débat. Alors, là, où est le problème ? C'est que les participants au débat, le public, ne sont pas représentatifs de la population. D'abord, il n'y a pas de jeunes. Moi, quand j'emmène des étudiants dans une réunion de concertation, ils voient arriver tout d'un coup 25 jeunes, et c'est des ovnis. Il n'y a que des vieux comme moi. Il n'y a que des têtes grises. Moi, on ne me remarque pas, mais eux, on les remarque, on vient voir, tâter, qui les a fait venir, c'est la claque de quel camp, c'est extraordinaire. Or, les retraités qui sont là, qui ont du temps, qui ont les moyens intellectuels, qui participent au débat, dans 15 ans, 20 ans, ils seront en EHPAD ou ils seront morts. Et qui va vivre avec le projet, avec ses apports positifs et ses apports négatifs? C'est les jeunes, ils sont pas là. Il n'y a pas de femmes de ménage, il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas d'immigrés. D'ailleurs, il y a beaucoup d'opposants. Les opposants sont surreprésentés dans les réunions publiques.
Mais Vincent Parera, tout à l'heure, dans son témoignage, disait, effectivement, lui, il est tout à fait d'accord avec cette forme de démocratie, de respect de la démocratie, simplement qu'il reproche le fait que ce ne soit pas fait avec intelligence.
Que ce soit il n'y a pas que la démocratie participative qui manque d'intelligence. Hein. Les campagnes électorales où on ne parle pas des problèmes cruciaux du pays, c'est monnaie courante. Hein, on va parler d'insécurité parce qu'il y a un vieillard qui a été agressé, et on ne parle pas de la question des retraites, du vieillissement, de la dépendance, ou de l'effondrement de la biodiversité, ou de la catastrophe qui nous arrive et qu'on sait arriver, qui est celle du changement climatique. Voilà, la démocratie, c'est imparfait. La démocratie participative est imparfaite, mais la démocratie représentative aussi. Mmh. Et à nous de l'améliorer. Mmh.
Alors Christine Nedelec, pensez-vous que vous êtes optimiste sur une forme de rapport intelligent, on va dire en tout cas, de discussion constructive sur un projet sur lequel vous êtes opposé? Est-ce que vous croyez que c'est possible?
C'est tout à fait possible, ça dépend de la volonté des différents camps. En fait, le dialogue, il est toujours possible.
Mais par rapport à ce que vous dites tout à l'heure, qui est quand même, vous dénoncez une forme de conflit d'intérêts, ben voire même de corruption, on dit c'est pas possible quoi.
En fait, on a un problème avec le système qui fait que malgré tout, nos services de l'État sont un peu au service des affaires, en fait, du monde des affaires. On a cette organisation historique qui fonctionne comme ça. Donc moi, je participe à des commissions en préfecture, les projets sont présentés sur un plateau d'argent, etc. Il nous manque la moitié des informations. Enfin là, je sors de la commission des sites, un endroit où on essaye de protéger les sites classés, et on nous proposait effectivement le prolongement de la ligne de numéroïne, le métro là, de Château de Vincennes vers la banlieue est, et qui traversait le bois de Vincennes, qui est un site classé et qu'il faudrait mieux ne pas toucher. Ce déclassement a été fait malgré un avis assez fort et opposé, mais pas suffisant pour prendre le dessus lors de cette commission, sur la base d'un crobar de la RATP, enfin j'exagère mais à peine, un dossier vraiment minimum qui a été fait il y a 10 ou 15 ans, et voilà. Donc ça me paraît quand même extrêmement problématique. Et on est très très souvent dans des situations comme ça. Alors ça, c'est pas satisfaisant, c'est satisfaisant pour personne. Et ça décide quand même de bouleversements majeurs pour beaucoup de gens, et avec des risques sur la situation et la résilience de la ville et de Paris.
Est-ce que vous pensez que l'architecture peut avoir un rôle à jouer là-dedans, si on fait par exemple des projets avec plus de végétation, plus de matériaux, plus de matériaux biosourcés, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen d'avoir une terre d'entente, de construire, de bâtir, de densifier avec une architecture plus respectueuse de l'environnement?
Bien sûr qu'il faut privilégier toutes les façons propres et vertueuses de vivre et de fonctionner pour conserver un monde vivable. Donc tout est bon, toute la créativité est importante. Mais je trouve que justement en architecture actuellement, on est quand même dans un système où on a l'impression d'avoir de l'architecture à la photocopie. On reproduit indéfiniment les mêmes modèles, et un peu concentrationnaire quand même comme modèle, je trouve. Et donc j'aimerais bien que justement il y ait plus d'inventivité, enfin moi personnellement, hein, mais je pense que c'est aussi le souhait de beaucoup de gens. Et on se trouve aussi avec des projets qui ont des tailles beaucoup trop importantes. Je crois qu'il va falloir redevenir modeste et faire des petites surélévations, des petits projets de 20 mètres de large sur la chaussée, mais pas de 300 mètres de long, parce que ça devient ennuyeux, imposant, et malheureusement, généralement, c'est pour des bureaux dont plus personne n'a vraiment besoin.
Philippe Subrac, quand vous voyez ça, vous avez, vous, des exemples de choses vertueuses, constructives, des échanges comme ça, qui peuvent être un peu porteurs d'espoir pour... vous dites le conflit, c'est important, ok, mais c'est le dialogue qui est surtout important, le dialogue démocratique. Est-ce que ça existe un peu en France, le dialogue démocratique, ou ailleurs même?
En fait, c'est rarement l'un ou l'autre, c'est-à-dire le dialogue de sourds ou le dialogue parfait. C'est plus compliqué. ça peut changer. Ce qui me semble important, c'est l'ouverture des parties prenantes, que ce soit les opposants, les promoteurs de projets, les élus, les architectes, aux arguments des autres. C'est-à-dire que on a collectivement besoin de changer nos façons de faire, changer nos façons de penser, et nous changeons. C'est-à-dire que pour les contacts que j'ai, je ressens qu'il y a beaucoup de jeunes architectes qui ne veulent plus faire de l'architecture et qui ne privilégient plus le geste architectural qui les rendra célèbres ou pas, ou bien la commande, mais qui veulent agir à leur façon dans ce sens-là. Et de l'autre côté, il faut que de la part des opposants, il y ait une opposition constructive, c'est-à-dire qu'ils cherchent des solutions. Alors, j'ai un exemple, il n'est pas architectural, il est infrastructure, c'est le conflit autour du CDG Express, où il y a quelques années, une association dont d'ailleurs le nom montre l'opposition, Vivre sans le CDG Express, avait proposé une alternative au projet de la SNCF, qui finalement a été adopté, en passant par la gare de l'Est, en utilisant les voies existantes du RER B, etc. Et donc, ils avaient joué un rôle pour une sortie par le haut du conflit, positive. Après, il y a eu d'autres problèmes sur le projet, qui sont des problèmes de financement, c'est autre chose. Donc, c'est possible. Voilà, c'est pas toujours possible. C'est-à-dire, il y a des projets qui sont dont le contenu, l'emplacement, la taille est rédhibitoire. Donc, dans ce cas-là, on peut pas accepter. Mais il y a peut-être une marge importante dans des tas de cas pour une amélioration.
Alors, l'émission commence à toucher à sa fin, donc on va devoir un peu conclure. Et c'est d'ailleurs l'heure de l'agenda de Dominique Boré, qui va nous, vous allez nous parler des événements à ne pas rater ce mois-ci.
À ne pas rater, et son titre dit tout, l'herbe folle, l'angle droit, l'horizon et la girafe, ou l'espace du vivant dans le Havre d'Auguste Perret. Je ne rajouterai que quelques informations, le titre disant tout. Depuis 2018, l'artiste Ilka Kramer arpente les rues, places, esplanades et promenades du Havre. Ici et là, elle photographie l'identité de l'architecture de Perret, avec ses colonnes lisses ou cannelées, ses bétons bouchardés, ses percements réguliers, tout en nous invitant à des rencontres inopinées avec des animaux réels ou imaginaires, des mauvaises herbes, pardon, on ne dit plus mauvaises herbes, mais on dit bien adventices, si j'ai bien appris la leçon, et des fleurs sauvages poussant dans les interstices du béton. L'artiste interroge le règne de la nature et la place de l'animal et du végétal dans cet environnement, à l'origine, construit pour l'homme et l'automobile. Je fais référence à tous nos débats précédents dans cette émission. Pour ce faire, elle déploie diverses techniques très intéressantes, des prises de vue photographiques bien sûr, mais aussi des dessins, des collages et des maquettes. Ça se passe au forum de la Maison d'architecture de Normandie à Rouen jusqu'au 22 février 2022. La vie HLM, histoire d'habitantes et d'habitants de logements populaires à Aubervilliers entre 1950 et 2000. C'est une exposition présentée in situ dans la barre Gros Perrin de la cité Émile Dubois, communément appelée les 800 depuis sa construction en 1957 à proximité immédiate du fort d'Aubervilliers. L'exposition, très intéressante, propose une expérience immersive dans le quotidien et les parcours de quatre familles qui ont habité la cité des années 50 aux années 2000 à travers la reconstitution de tout ou partie de leur logement. Au cours des visites, le récit des guides met à portée de tous une histoire incarnée d'Aubervilliers et de la France contemporaine vue des quartiers populaires, afin que l'histoire de la banlieue prenne toute sa place dans le patrimoine urbain. Cette exposition a été créée par l'AMULOP, AMULOP, AMULOP, L-O-P, qui est une association à l'origine de la conception de cette exposition. Elle rassemble des passionnés qui travaillent depuis 2014 à la construction d'un musée du logement populaire. Toutes les informations sont sur leur site, lavieHLM-expo.com. Je vous la recommande, il y a des visites organisées, c'est vraiment passionnant. Et puis, ça, on revient à la contestation. Là, c'est pas de la contestation, c'est la concertation pour la création d'un musée et je vous conseille de la soutenir. Si vous souhaitez échapper au débat sur la vaccination obligatoire lors du prochain repas de Noël, je vous conseille de favoriser de vifs échanges entre les pros et anti-nucléaires grâce au dernier ouvrage d'Étienne Davodeau, Le droit du sol, journal d'un vertige, que vous aurez donc déposé préalablement au pied du sapin. Étienne Davodeau, qui marque là son retour à la bande dessinée de reportage, relate son périple de 800 km entrepris entre 2019, pendant toute l'année 2019, à pied et sac au dos, entre la grotte de Pêche-Perle et Bure, des peintures rupestres, trésors d'humanité encore protégés, aux déchets nucléaires enfouis dans le sous-sol. Étienne Davodeau, accompagné de spécialistes, nous raconte l'histoire unique du sol de notre planète, ou encore celle du nucléaire et de ses déchets. Je pense que ce sera effectivement un débat vif garanti autour de la dinde. Étienne Davodeau, Le droit du sol, journal d'un vertige, c'est aux éditions Futuropolis. Enfin, sur France Culture, depuis la rentrée de septembre, le producteur Toufik Hakem nous raconte chaque dimanche à 16h l'esprit des lieux du site patrimonial à la cabane abandonnée. À partir d'un prisme particulier, les 20 ans de la piscine de Roubaix, la panthéonisation de Joséphine Baker qui fit ses premiers pas au théâtre des Champs-Élysées, la rénovation des franciscaines de Deauville devenue centre culturel, la friche de l'Escalette à Marseille, une ancienne usine de traitement de plomb devenue aujourd'hui un espace d'exposition. Les invités nous racontent les passés et les actualités, les architectures et les architectes des bâtiments et espaces choisis. Cela dure une demi-heure, c'est remarquablement raconté, dans un style tout à la fois alerte et rythmé, tel que, soudain, nos oreilles ont des yeux.
Merci Dominique Bourré. Christine Dedelec, un petit mot de la fin, je crois que vous allez encore... Vous n'avez pas fini votre combat ?
Non, mais ce qui est passionnant, c'est de participer à faire bouger le monde, et dans le bon sens, on espère.
Philippe Subra, vous, quels sont vos projets d'études encore maintenant ?
Ah bah écoutez, moi je m'intéresse beaucoup aux nouvelles formes que prend la radicalisation de la contestation, parce que je crois que la décennie des ZAD est à peu près terminée, que le gouvernement a trouvé la parade, l'État a trouvé la parade, et donc il y a de nouvelles formes de contestation radicale qui se développent. Alors, et parmi ces contestations, il y a aussi des contestations contre les politiques environnementales.
Ah oui.
Contre les éoliennes par exemple, ou contre la réintroduction de l'ours pour la préservation de la biodiversité, ce qui me semble un champ tout à fait intéressant à analyser.
Un autre sujet encore à développer par la suite. En tout cas, merci à nos invités, Christine Nedelec, Philippe Chibra, merci à Marion Emery qui nous a permis d'éclairer toutes ces informations. Merci à David Trottin et Dominique Bourré que nous retrouverons le mois prochain. Et merci à Théo, je crois, à la technique et Guillaume Loiseau et Eric France pour cette parole accordée. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau numéro de Prisme. Je vous donne rendez-vous donc en janvier 2022, c'est toujours drôle de le dire, pour une nouvelle émission qui sera intitulée Urbanisme transitoire, faire la ville, l'espace d'un instant. Hein, on va parler de ces outils de planification urbaine que sont devenus les friches culturelles, les tiers-lieux et toutes ces occupations temporaires. Et je vous promets aussi un beau débat sur ce sujet. Vous pouvez bien sûr podcaster l'émission et nous écrire à prisme.batiradio@gmail.com. À bientôt, bonne année.
Prisme, l'émission d'architecture qui fait société sur Bâti Radio.